Bien-aimé, je vous remercie pour cette invitation. C'est surtout pour moi un honneur de venir prêcher ici dans une église où il n'y a pas tellement longtemps, enfin il y a quand même quelques temps, je faisais une formation à la prédication laïque ici en haut dans les locaux. Donc voilà. Ce matin, je voudrais entamer un thème avec vous. Parce que je suis vraiment étonné d'une chose, c'est que le monde est en recherche d'identité. Si vous écoutez autour de vous, vous entendez ce genre de paroles, je cherche mon identité, je ne sais plus très bien qui je suis perdu dans ma tête, je ne sais pas où je vais. Et puis on va voir un psy, hein, et puis on va discuter avec lui, et il va nous aider à nous retrouver. Mais vous voyez ce que je tiens ici en main, vous savez tout ce que c'est ce qu'on appelle communément une carte d'identité. Alors, je regarde sur ma carte d'identité, c'est la commune qui m'a offert ça, enfin, offert, vous voyez ce que je veux dire, hein. Je retrouve plein de choses. Mon nom, j'ai mis, mon prénom, mes prénoms, Jean-Marc Émile. Je retrouve aussi mon numéro de registre national, un énorme numéro avec lequel on sait qui je suis, un numéro sur cette carte d'identité, et ma nationalité, en somme. Mais quand je suis quelqu'un qui aime bien aller un petit peu plus loin, je me suis posé la question, ça veut dire quoi ça, identité? C'est quoi ce mot identité qu'on utilise tellement de fois? Alors je prends le dictionnaire, je regarde dans le dictionnaire, et je trouve cette définition assez intéressante. L'identité, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. C'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. Alors, fort de ça, je me dis, mon identité, elle dépasse ce petit morceau de carton. Elle va beaucoup plus loin que ça. Elle me rattache à mon père par mon nom de famille. Elle me rattache à ma famille. Elle est mon patrimoine derrière moi. Et je commets plus loin que dans certaines origines du Sud, peut-être, je ne sais pas, les Italiens, mais les Espagnols savent ça. Ma femme est espagnole. Sur sa carte d'identité, qu'est-ce que je retrouve? Elle s'appelle du nom de son papa et de sa maman. Donc, c'est encore quelque chose de plus large. Bref, en quelque sorte, même si je me répète, l'identité, c'est quelque chose qui me dépasse. Alors ce matin, parce que je dis que Dieu fait souvent bien les choses, et je suis vraiment étonné de combien de fois j'ai entendu le mot « enfant de Dieu ». Nous sommes enfants de Dieu. Nous remercions parce que nous sommes enfants de Dieu. Et on a raison de le dire. On a raison de le dire parce que tout au début de son évangile, Jean va dire quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, la parole, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, il leur a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. Donc, on peut dire que nous sommes des enfants de Dieu. Mais c'est quoi réellement un enfant de Dieu? C'est quoi? On est enfant de Dieu, c'est bien, c'est un beau titre, c'est un titre. Je suis enfant de Dieu. Et qu'est-ce que ça va surtout impliquer dans ma vie de tous les jours? Ça, c'est important. Parce que je vais poser une question. N'est-on enfant de Dieu ou on est enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde saisit la différence? Il y a deux verbes là. Naît-on enfant de Dieu ou on est enfant de Dieu? Naître, être. Est-ce que le jour où je suis né, j'étais enfant de Dieu? J'étais une créature de Dieu, ça c'est sûr. Alors, est-ce que je suis enfant de Dieu? Ça, c'est autre chose. Et même dans certains textes, ce nom d'enfant de Dieu va même aller plus loin. On va nous appeler être glorieux. Bien aimé, quelle révélation. Nous sommes tous ici des êtres glorieux. Hein, hein ? C'est bien ce que l'apôtre Pierre dit dans son épître, et Jude aussi dans son épître. Il va opposer les êtres glorieux, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ, au monde, qui lui n'est peut-être pas en Christ. Ça fait beaucoup de titres en peu de temps, hein ? Enfant de Dieu, être glorieux, vous ne trouvez pas ça un peu lourd sur les épaules par moment ? Moi, je pense que oui, et je pense qu'il est surtout intéressant aujourd'hui de réfléchir à qu'est-ce que ça signifie cette identité et en quoi est-ce qu'elle va influer sur ma vie. La première chose qu'on doit savoir, c'est qu'on a choisi librement de devenir enfant de Dieu. On ne l'est pas par notre naissance, naître. Dans certaines cultures, on appartient à la religion des parents en naissant. Je pense que là, cette fois, c'est de quoi je parle. Et bien longtemps, dans le catholicisme, c'était comme ça aussi. Combien de fois, quand je me suis converti au protestantisme, ma mère ne m'a pas dit « Mais tu es catholique ». Je dis « Pourquoi je suis catholique, maman ?»« Parce que je suis catholique et papa aussi. » Je suis né catholique. Tu n'as pas le choix. Non, j'ai choisi, moi, à un moment donné, d'être un enfant de Dieu. C'est mon choix personnel, c'est votre choix personnel. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible, parce que là, on est quand même là pour ça, et on va retrouver dans cet épître aux Corinthiens, au chapitre 2, nous allons voir ce que l'apôtre Paul nous enseigne par rapport à ça. 2 Corinthiens au chapitre 5, excusez-moi, un double lapsus, 2 Corinthiens 2, non, 2 Corinthiens 5. Et nous allons lire à partir du verset 17. Que nous enseigne l'apôtre Paul ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, le ministère de la réconciliation. On va retenir ça. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, encore une fois. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs du Christ. Ambassadeur, retenons bien ce mot aussi. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Et nous allons aller un peu plus loin, au chapitre 6, là, nous allons aller au verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Là, il va commencer à nous donner des conseils. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pour ça. Sortez du milieu d'eux et préparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et on va clôturer par le tout début du chapitre 7, où là, en ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je me dois quand même, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce qui vient d'être lire, de vous dire dans quel contexte Paul se trouve lorsqu'il se trouve à Corinthe. Pour lui, il ne s'agit nullement de rejeter les personnes autour d'eux. Ce n'est pas ça qu'il leur enseigne. Parce que Corinthe est une ville qui est voué au paganisme total. C'était chaud à Corinthe. Hein ? Il y avait des prêtresses qui, bien souvent, étaient plus des prostituées que des prêtresses, des sanctifications à je ne sais combien de dieux qui finissaient Je ne dois pas vous faire un dessin, bien souvent. Et ça, l'apôtre Paul met les chrétiens en garde avec ça, dit attention, ça c'est fini, ça c'est terminé. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Tout tient dans cette phrase. Tout tient dans cette phrase, bien-aimé, et là je voudrais mettre en garde tout le monde. Parce que bien souvent, par facilité, pour ne pas être rejeté quand on est en groupe, ou on va dire raillé quand on est en groupe, on pourrait être enclin à participer à des activités qui pourraient déplaire à Dieu, tout simplement. Ou pour le moins les cautionner, ne pas mettre la patte, comme on dit. Hein, on ne va pas faire ça, parce que sinon on va peut-être se retrouver au banc. Pourtant, nous devons tous savoir que le choix que nous avons fait, c'est nous ouvrir dans une nouvelle vie, une vie qui est différente. Est-ce que cette décision qui nous engage à ne plus être les mêmes, est-ce que c'est facile ? Oh non. Oh non. Et là, je parle pour moi aussi. Hein. C'est pas facile de changer de vie. C'est très, très compliqué. Alors oui, bien sûr, ceux qui ont été baptisés ici savent, hein, vous connaissez bien le baptême, hein, le baptême par immersion, vous rentrez dans l'eau, vous êtes purifiés par l'eau, vous laissez dans l'eau le vieil homme et la vieille femme, et vous sortez purifiés, vous sortez un être neuf, un être nouveau. Je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Le vieil homme et la vieille femme, un mail s'est nagé, hein. Ah ouais, ouais, il nage même très bien. Et il va sortir derrière vous. Il va vous suivre. Ou plutôt, il va vous poursuivre. Il va dire, c'était quand même bien avant. Ouais, tu te rappelles ? Ouais, on a fait des trucs, attends, c'est génial quand même, non ? Et il sera là, hein, tout le temps, tout le temps. Ouais, ouais. Ouais, bon, c'est vrai que tu as changé de vie, mais allez, quand même, quoi. Pas à ce point-là, hein. Allez. Hein ? Ça, c'est le vieil homme et la vieille femme qui sort derrière nous. Mais là, il y a quelque chose qui est important. Ça, c'est un texte qu'on doit bien retenir aussi. Première épître de Jean. Qu'est-ce qu'il nous dit dans la première épître de Jean ? Première épître de Jean, au chapitre 2. Mes petits-enfants. Ah, j'adore quand Jean nous appelle mes petits-enfants. Parce que là, on n'a plus affaire à l'adolescent que Jésus a compris. Là, on a affaire à un Jean mature et qui appelle les chrétiens mes petits-enfants. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, eh bien, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ah, ça, c'est des paroles qu'on doit avoir dans notre bouche. Ça, c'est des paroles qu'on doit avoir dans notre bouche. Vous n'avez jamais entendu, quand vous échangez avec quelqu'un qui dit « Moi, après tout ce que j'ai fait, mon vieux, moi, je suis cuit. » Pour moi, c'est l'enfer tout tracé, terminé. Alors bon, moi, je veux bien, tu peux me parler de tout ce que tu veux. Non, non, non. Jésus est mort, non pas seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Pas au moment où il est mort sur la croix. Passé, présent, avenir. Il a racheté le monde entier. Et ça, ce sont des paroles de réconciliation. J'avais dit, hein, retenons bien le mot de réconciliation. Réconcilier quelqu'un avec Jésus en lui disant, mais Jésus, il est mort pour toi. Malgré tout ce que tu as fait pour lui, tu es quelqu'un d'autre. Pour autant que tu reviennes vers lui. C'est aussi simple que ça. Et là, vous réconciliez quelqu'un et vous lui redonnez de l'espoir. Vous lui rétablissez une identité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, bien-aimé. Et puis, il y a celle que Dieu fait lui-même dans la première lecture qu'on a faite. « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, » dit le Seigneur Tout-Puissant. Je vais poser une question à l'Assemblée. Quel est le père, le papa J'ai entendu le mot papa. J'aime bien quand on prie et qu'on appelle Dieu papa, parce que ça, c'est quelque chose de magnifique. Quel est le papa qui rejette totalement son enfant? Moi, je n'en ai pas encore rencontré. Et j'ai déjà entendu des gens qui disaient « c'est plus mon fils ». Un jour, j'ai un collègue qui m'a dit ça, il était très fâché sur son fils. Il m'a dit « c'est plus mon fils ». Je dis « là, tu rates tout, mon vieux, parce que ton fils, il va le rester toute sa vie. Hein. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fabriqué ? Ah, réfléchis, hein. Même si tu es fâché avec lui, c'est ton fils. Ça, tu ne peux pas oublier. Et là, il a été surpris, mais c'est une réalité. Alors imaginez Dieu dans son immense bonté, s'il est seulement capable, une seule fraction de seconde dans sa tête, penser, rejeter son enfant. C'est l'enfant qui va le rejeter, pas lui. Lui, il sera toujours là. Comme le père qui attend le fils prodigue. Je ne vais pas vous rappeler la parabole, hein, sinon on a jusque je ne sais pas quelle heure. Jusque quelle heure j'ai, mon frère ? Il est dans sa Bible. Jusque quelle heure j'ai ? Parce que si on peut. Non, c'est pour rire, parce que là. Bon, je vais continuer quand même, parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes à voir. Et on va retourner dans l'évangile, dans l'épître de Jean, et on va aller un petit peu plus loin. Toujours dans 1 Jean 2, et on va commencer à partir du verset 3. Et là, il va nous faire des observations. Il va nous dire, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alors le tout maintenant, c'est de définir qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. Allons un peu plus loin. Vous, au devant, tous ensemble ici, on est tous frères et sœurs, très certainement. Nos frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, qui sont ce matin occupés à glorifier le Seigneur dans les pays, même dans la difficulté, même là où on cherche à les détruire, très certainement. Et ça s'arrête là. Nos frères dans la foi. Et les autres. Je ne sais pas, moi. Moi, je crois que vous ne croyez pas ça non plus. Et là, je vais vous ramener vers une parole du Christ. Qu'est-ce que Jésus va dire ? Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, au chapitre 5, vers la fin. Vous savez, alors que Jésus va un petit peu rappeler un certain nombre de préceptes, là, à tous ces pharisiens, là, et les ramener un petit peu dans la parole. Il va dire ceci, à partir du verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Wow. Afin que vous soyez fils de votre Père, autrement dit enfant de Dieu, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. Ah ! Quel programme difficile, hein ? Bénir celui qui me hait. qui me fait du mal. Ça peut aller loin. Bénir et prier pour celui qui m'a fait du mal, voire parfois même du mal physiquement. Je dois prier pour cette personne. Je dois le bénir. Et je dois l'aimer. Ah, j'en entends vous dire que ça, c'est très difficile. Et pourtant, je pense que c'est faisable. C'est faisable et je vais vous donner un tout petit témoignage. Nous avions projeté de faire venir ici un pasteur du Mali, le pasteur Caleb. Quel beau nom, hein, quel beau nom, Caleb. Je vous renvoie au livre des Nombres, vous verrez qui est Caleb. Ce pasteur devait venir ici et j'aurais tellement voulu qu'il témoigne lui-même. Lui, il sait ce que c'est la haine. On a cherché à le tuer. En prière dans son église, des gens sont venus le prévenir. Lui, on dit, pasteur, il faut que tu t'enfouilles parce que là, ils viennent pour te tuer. Pas pour te faire du mal, pas pour le frapper, pas pour l'insulter, pour te tuer. Il dit toujours, et ça le fait rigoler, j'ai même pas eu le temps de mettre mes chaussures, je suis parti en courant, parce que là, franchement, c'était quand même un peu dangereux, c'était chaud. Et un peu plus loin, on va venir un jour chez lui, on va lui dire, pasteur, on a mis le feu à l'église, on a tout démoli et on a mis le feu dans l'église. Et vous savez qui avait mis le feu dans l'église? Le fils de l'imam, qui habite juste en face de l'église. Et là, en Afrique, mes frères africains savent, voyez un petit peu comment sont parfois construites les villes. Quand on met le feu quelque part, c'est très dangereux. Et les autorités ne rient pas avec ça. Que ce soit une église, que ce soit n'importe quoi, on ne rit pas avec quelqu'un qui met le feu. Et ils ont attrapé ce jeune homme. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont mis en prison. Un jeune homme de 17 ans. Vous savez ce qu'il a fait, Caleb? Il avait de bons contacts avec le président de l'époque. Il était assez en bonne relation avec lui. Il est allé au palais présidentiel, il est allé plaider la cause de ce jeune homme. Il a dit, vous savez, président, nous, on ne sait pas. Ce n'est pas vous ce que vous allez faire, mais nous, les chrétiens, on lui a déjà pardonné. C'est fini. Oh, s'il est jeune, il a fait des bêtises. Il en fera peut-être encore, mais on ne peut quand même pas ruiner sa vie. Il a vraiment plaidé pour que ce jeune homme ne finisse pas sa vie en prison, hein, parce que ça pouvait aller jusque-là. Ça, première chose. Il va réussir. Le président va le garder un petit peu en prison, comme ça il apprend, une quinzaine de jours, et puis il va être remis à son papa. Un peu plus loin, Caleb construit une église un peu plus importante maintenant, donc il a des moyens, l'église peut fonctionner, ce sont des églises, vous êtes bien assis, chez Caleb, au culte, le matin, le dimanche, ils sont à peu près 500 personnes. Donc là, ça devenait petit. Donc il a fallu que nous, avec la casse, on l'aide pour qu'il puisse commencer à ériger un bâtiment. Et puis en montant le bâtiment, il se rend compte que, comme on dirait de la mezzanine, là, on voit dans la cour de l'imam. Mais dans la cour de l'imam, il y a les toilettes. Et les toilettes servent quoi? De salle de bain. Et le matin, les femmes de l'imam viennent se laver dans ces toilettes. Les ouvriers qui sont occupés à travailler, qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Ah ben voilà, je ne vais pas vous faire un tapot. Et là, Caleb, quand il se rend compte de ça, il va trouver l'imam, il lui dit, bon, écoute, il faudrait quand même que tu mettes une toiture sur tes toilettes, parce que là, franchement, c'est un peu gênant, quoi. Moi, non seulement ils ne travaillent plus, mais en plus, moi, je n'aime pas beaucoup ce qu'ils font. Et l'imam va lui dire, moi, je n'ai pas les moyens de faire ça. Hein. Ah, attends, l'argent, moi, je ne les ai pas. Alors, il dit, ça ne fait rien. L'imam, hein, celui dont le fils a mis le feu, là. Il va trouver l'imam, il va dire, ça ne fait rien. Nous, on va payer ta toiture. Et je vais envoyer des gars de l'église, ils vont construire la toiture. Et ils ont fait ça. Alors, l'imam, qui est un homme très intelligent et qui n'en rate pas une, en profite pour lui dire, tu sais, j'ai des problèmes avec la distribution d'eau aussi, hein. C'est vrai, c'est ça embêtant. Mais ça fait rien, j'ai un plombier dans l'église, il va venir t'arranger ça. Il a rendu du bien là où il y avait un message de haine. Parce que là, ce sont des messages de haine qui se passent. Et ça, ce sont des chrétiens qui m'ont dit, on entend quand il y a des prières sur le minaret, il y a la prière, et puis il y a toujours un léger message de l'imam. Ce sont des messages de haine envers les chrétiens. Ils sont traités de kaft, les cafards. Les chrétiens sont des cafards. Donc il faut les écraser, il ne faut pas les garder. Et malgré ça, les chrétiens là-bas font le bien autour d'eux. Et un beau jour, l'imam va lui dire quelque chose d'assez incroyable. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est vraiment très drôle. Je vais d'ailleurs prendre mes notes pour ne pas me tromper dans ce qu'il a dit. Parce que ça, j'ai demandé à Kabbalet, répète-moi ça deux, trois fois, parce que là, il a dit ceci. Nous vous avions apporté le feu et vous nous avez apporté l'eau. L'eau, l'eau de vie. Je suis l'eau vive. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Ça vous dit quelque chose ? Je ne sais pas si l'imam a bien mesuré ses paroles, mais je me demande qui a mis ses paroles dans sa bouche. J'ai une petite idée là-dessus. Est-ce qu'il s'est converti ? Il est décédé maintenant. Est-ce qu'il s'est converti ? On ne le sait pas. Peut-être dans son cœur. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué de changer de vie. Surtout dans un milieu pareil. Un imam qui déclare à tout le monde qui s'est converti comme chrétien, je ne sais pas ce qui pourrait arriver à sa famille. Mais ça, c'est autre chose. Tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il nous a fait, est le plus beau message que nous pouvons faire. Aider celui qui est dans le besoin sans regarder qui il est, sans savoir s'il nous aime ou s'il ne nous aime pas. Ça, ce n'est pas notre problème. C'est quelque chose d'important. Et c'est toujours reconnu. Je viens de fêter mes 70 ans, 70 pour les Français dans la salle. Et combien de fois n'ai-je pas entendu « Pourquoi tu fais ça ?»« Pourquoi tu fais ça ?» Et moi, souvent, je réponds, je dis « Parce que moi, il y a quelqu'un là-bas en haut avec lequel je voudrais rester bien, hein, parce qu'avec lui, j'ai vraiment envie de rester bien avec lui. » Il me demande de le faire. Et je le fais. Et je le fais parce que je t'aime, parce que tu es quelqu'un, une créature de lui, comme moi. Toi, tu es une créature de lui aussi. Non, tu es mon frère. Non, je le fais. Et ça interpelle énormément. Vous seriez étonné de comment le regard des gens peut changer après ça. Et s'il ne change pas, priez pour lui. On a toujours cette solution-là. Je voudrais aller un peu plus loin maintenant. On va retourner dans cet évangile de Jean. On va retourner toujours dans Jean, chapitre 2, 1 Jean, et on va aller au verset 15. Parce que là, il va nous donner aussi des conseils, un peu comme Paul en a donné à Corinthe, Jean va en donner, mais d'une manière beaucoup plus générale. Il dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. J'ai marqué jusque 17, on va s'arrêter là. Et on va réfléchir. Est-ce que Jean nous demande de nous retirer du monde ? De faire notre petite castre, notre petite secte dans un coin, là, bien entre nous, et surtout, ne nous mêlons pas de ces gens-là. Bon, je vois déjà beaucoup de têtes qui font non, mais non, bien sûr que non, parce que là, ça irait totalement contre la volonté du Christ. Je les ai envoyés dans le monde, et le monde les a haïs. Je vous envoie dans le monde. Alors nous, on dirait non, 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 Jean a dit qu'on ne doit pas se mettre dans le monde. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il parle encore une fois. C'est en fin de compte... La même chose, c'est de ne pas nous mêler aux agissements du monde. Il faut toujours bien faire la différence entre les deux. Et si vous êtes dans un endroit où vous pensez que ça ne va pas, ben là, vous ne devez pas rester. Ça, c'est clair. Il ne faut pas dire je reste. Non, non, là, à un moment donné, si on se sent en danger, il ne faut pas rester. Ça, le Christ nous demande aussi de le faire. Secouez votre manteau, vos pieds, et continuez votre chemin, ne restez pas là. Oui, j'ai peut-être une lecture de la Bible parfois qui peut vous surprendre, mais la Bible, je la vis à l'heure actuelle. Je vis la Bible comme si c'était aujourd'hui que je la vivais. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi que l'on doit faire. C'est vivre la parole de Dieu maintenant, aujourd'hui, dans la vie. Dans la vie, toi, ma sœur, dans la vie, toi, mon frère, dans la vie, toi, mon frère, parce que ta vie, c'est pas la mienne. On la vit pas de la même manière. Mais la parole de Dieu, elle va dans toutes les vies. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est vivre la parole de Dieu au jour le jour. Mais je vais fermer cette parenthèse, c'est toute une autre prédication. Ça. Et je vais reprendre en fin de compte dans Jean 17. Vous connaissez Jean 17, cette fameuse prière que l'on appelle la prière sacerdotale. C'est cette prière que Jésus va faire lorsqu'il est dans le jardin des Oliviers. Et là, il sait qu'il est arrêté, qu'il va mourir. Il sait que tout est accompli pour lui. Alors Jean 17, à partir du verset 14, qu'est-ce que je pouvais lire ? Alors Jean 17, 14, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne demandent pas à Dieu de nous retirer, ils nous demandent de nous protéger du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et ta vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et c'est là qu'apparaît l'être glorieux, je ne sais pas si je lui ai demandé de la projeter jusque-là, tu l'as fait jusque-là, je ne sais pas. D'accord ? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Le Christ nous donne la gloire. Ce qui permet à Pierre et à Jude, comme j'ai dit tout à l'heure, de non seulement être enfants de Dieu, mais d'être des êtres glorieux. Et ça, c'est important de savoir. Parce que quand on est un être glorieux, on brille, on scintille, on éclaire. On ne se met pas dans un coin. On a quelque chose à faire. Bien-aimé, je pense qu'il est peut-être temps de conclure. Je vais conclure. Je vais conclure pour essayer de nous rappeler en quoi notre identité, en quoi est-ce qu'elle tient ? Elle doit influencer notre vie au plus profond de notre âme. Elle doit être le signe d'un changement de comportement vis-à-vis du monde qui nous entoure. Elle implique notre volonté d'être en Christ, tout comme lui est en nous. Lui s'est engagé à le faire, et il le fait. Elle fait de nous des témoins de sa parole et de sa résurrection. La notion d'ambassadeur, nous sommes les témoins de sa résurrection. Et elle fait de nous des ouvriers de paix et de réconciliation. Ça fait 5 points. Et je pense que c'est important pour nous de graver ça dans notre cœur. Parce que vous vous rappelez ce qu'est l'identité ? C'est ce qui permet de reconnaître quelqu'un au milieu de toutes les autres. Là, vous serez reconnu comme étant quelqu'un de différent, un enfant de Dieu. Mais le chantier est grand, hein ? Un gros chantier. C'est la moindre chose qu'on puisse dire. Mais on n'est pas tout seul. On n'est pas seul. Quand le Christ dit « Je suis en vous, je suis là », il est là, à l'intérieur. Quand vous êtes baptisé, vous avez été baptisé comment ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vais moi vous dire, de toute ma vie, j'ai toujours eu besoin de tous les trois. On a besoin des trois pour pouvoir changer. Et notre changement se fera tous les jours, chaque jour, un peu. Je ne suis pas comme j'étais à 40 ans. Et certainement pas comme j'étais quand j'étais adolescent, parce que ça, c'était peut-être pas très glorieux. On change si on laisse Dieu travailler en nous. On change si on l'écoute. Parce qu'il vous parle, hein. Le Christ vous parle chaque jour. Écoutez, il vous parle, j'en suis certain. Je ne sais pas s'il y a encore ici dans l'Assemblée des jeunes ou des gens qui attendent pour le baptême. On a évoqué la notion du baptême ce matin et la participation à la Sainte-Seine par rapport au baptême. Alors le baptême, ce n'est pas une fin en soi. On n'est pas baptisé parce qu'on est parfait. J'aurais jamais été baptisé. Je vous le dis tout de suite. Si le pasteur m'avait dit, Jean-Marc, tant que tu n'es pas parfait, je ne te baptise pas, j'ai dit, on est mal barré. Ça va mal finir. Ça ne va pas marcher, ça. Non, non. On demande le baptême parce qu'on veut commencer une vie avec le Christ. J'ai bien dit, on veut commencer. On n'est pas déjà plein de savoir, on ne connaît pas la moitié de sa Bible, c'est pas important. La volonté d'appartenir à Jésus et de lui dire « Je veux que tu te mettes en moi maintenant. » Et je vais pouvoir à ce moment-là, avec l'aide de l'Esprit-Saint, rentrer dans ta parole, la comprendre. Je vais pouvoir, avec ton aide et avec l'aide du Père, changer tous les jours un petit peu quelque chose. C'est ça le baptême. Est-ce que le Christ dit « Enseignez-les, baptisez-les » Est-ce que c'est ce qu'il dit à ses disciples? Allez d'abord les enseigner, et quand ils seront bien enseignés, pensez à les baptiser. Non. Baptisez-les et enseignez-les. Voilà ce que je veux dire à ceux qui attendent, qui ne savent pas. Mais ils doivent savoir une chose, c'est que c'est quelque chose de réfléchi. On ne se fait pas baptiser pour faire plaisir à papa, maman, ou pour faire une grande fête parce qu'on fait une grande fête le jour du baptême. Non. Quand vous avez vraiment le sentiment que vous voulez appartenir à Jésus, allez trouver votre pasteur ou l'ancien de l'Église et dites-lui « Je voudrais être baptisé parce que je veux appartenir à Jésus. » Et après, j'aurai besoin de toi, pasteur. J'aurai besoin de toi, l'ancien, parce qu'on va devoir avancer ensemble. Et puis, pour tous ceux qui sont déjà baptisés, ben, persévérons, hein, parce qu'il y a encore du boulot. On a été baptisé, on a pris la bonne décision, on a bien démarré, et puis tous les jours, on fait un petit peu. Voilà. Et comme quelqu'un qui refait sa maison, il ne la fait pas en une fois. Il y a toujours quelque chose à faire. Eh bien, c'est ça, bien-aimé. C'est vraiment ça. Gardons courage. Ayons foi en lui. Ayons foi en ces trois personnes. Sept personnes. Il n'y en a qu'une. Mais elle est trois fois représentée. La notion du Père. Le Père, c'est celui qui nous sécurise. C'est celui qui apporte la sécurité dans notre âme. Le Fils, celui qui nous sauve, celui qui nous accompagne, qui nous prend par la main. Et l'Esprit Saint, tout ça, c'est Dieu. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous ouvre l'esprit, qui nous permet de comprendre et qui nous permet d'avancer dans notre vie. Et je vais en terminer par un moment de prière. Nous venons à toi, notre Père Céleste, comme Jésus est venu à toi dans ces derniers instants. Père, nous voulons être des chrétiens agissants. Nous voulons être des chrétiens enfants de Dieu, afin de mériter le nom que tu nous as donné, que tu nous as accordé, d'être tes enfants. Nous voulons être faits à l'image de ton Fils, Jésus, lorsque tu l'as envoyé dans le monde. Mais nous avons besoin de toi pour effectuer tous ces changements profonds dans notre vie. Nous te remercions. Nous te remercions de cette grâce que tu nous as accordée par le sacrifice de ton Fils Jésus, qui a ôté le péché du monde présent, passé, à venir. Mais nous voulons aussi reconnaître par cette démarche en nous mettant devant toi que c'est à toi et à toi seul qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.